Temps des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Aujourd'hui, une rencontre entre deux auteurs autour de la notion de transmission qui est sans doute une belle raison d'écrire avec Olivier Frébourg. Bonjour Olivier Frébourg.
Bonjour Christophe Navibio.
Et Claire Berest. Bonjour Claire Berest.
Bonjour.
Alors Olivier Frébourg, vous publiez Où vont les fils au Mercure de France, un livre qui se présente comme une sorte de testament, si j'ose dire, sur une vie d'avant que vous avez aimé et qui n'est plus, en tout cas votre narrateur. C'est un père qui parle, un père qui parle de la véritable odyssée qui est la vie de père, et aucune n'est plus belle, dites-vous. Ce père semble faire ses adieux à cette vie d'avant. Il a perdu la femme qu'il aime, elle l'a quitté, fracassant sa vie et ce bonheur familial qu'il évoque dans son texte assez court, tendu. Texte où il s'agit peut-être de ressusciter cette vie d'avant une dernière fois ou de prendre acte de sa disparition. Cet homme a trois fils. Le plus petit a perdu son jumeau à sa naissance. C'était d'ailleurs le sujet d'un de vos très beaux livres, Gaston et Gustave, publié en 2011. Et l'écho de cette souffrance court encore à travers les pages de votre nouveau livre, tout plein de souvenirs. Souvenirs des voyages du narrateur, notamment en Asie, souvenirs des films de Sautet. L'enfance y est comparée à un paquebot, c'est son enfance aussi dont il est question. Des robes d'été vert bouteille aussi, il parle, les robes d'été vert bouteille de la femme aimée, de On dirait le Sud de Nino Ferrer, et puis la vie de maintenant, les supermarchés et l'ère de la robotisation, du consumérisme, la mort du livre aussi, dites-vous, donc du sacré, de la verticalité. Nous sommes la preuve cet après-midi que ce n'est pas mort le livre Olivier Frébourg. Alors pourquoi cette volonté de transmettre les signes du désastre?
Ah, c'est, là aussi c'est une autre odyssée. Vous avez dit beaucoup de choses, mon cher Christophe, en liminaire de cette émission et en introduction. En effet, ce livre est une mini-odyssée. Alors une mini-odyssée qui comporte à la fois des voyages et dont le sujet, en effet, est central, et la transmission, à savoir qu'est-ce que nous laissons à nos enfants, à ce que nous aimons le plus au monde, qu'est-ce que nous laissons, est-ce que nous laissons notre propre enfance, est-ce que nous leur laissons d'autres valeurs du monde contemporain dans lequel nous vivons, et le sujet était cela, c'est-à-dire quand nous connaissons une enfance voyageuse, qui a été le cas pour moi, d'azur, de fluidité tropicale, qu'est-ce qu'on leur laisse aujourd'hui dans le monde des GAFA, dans le monde de l'éclatement et dans le monde de l'éclatement non seulement de la société, mais aussi, je dirais, des couples et de la vie sentimentale. Donc c'est cette odyssée à la fois de l'enfant que j'ai été vers mes propres enfants, parce que je crois que lorsque nous sommes parents, père et mère, la chose extraordinaire, c'est que à la fois nous revivons notre propre enfance avec nos enfants, et il y a une inversion parfois des rôles. C'est parfois nos propres enfants qui sont nos parents ou nos tuteurs, c'est eux qui nous portent, c'est eux qui nous tiennent, et nous sommes évidemment aussi parfois leurs parents, donc avec un devoir d'exigence pour tracer la route.
Et le mot de désastre que j'utilisais, il vous convient, transmettre aussi les signes du désastre?
Le désastre, ce sont des épreuves. C'est comme Ulysse, il doit affronter. De temps en temps, je suis un petit Ulysse du quotidien. Hein, je ne me compare pas du tout à un héros homérique. Mais il doit affronter parfois des fêtes, des désastres. Ces désastres, ce sont comme des rideaux de pluie que nous traversons. La vie n'est jamais un désastre définitif. Il y a toujours un souffle de vie. Nous vivons, nous devons justement nous battre. Après, si vous voulez, il y a des constats, il y a des moments ou en effet qui sont parfois plus de tristesse. Mais je veux dire, la vie, c'est ce cocktail magnifique, à la fois de tristesse et puis de joie qui vous emporte et qui vous permet justement d'affronter et de surmonter les épreuves. Une vie qui serait monocolore serait d'un ennui total. Ce serait une vie d'ailleurs totalitaire. Donc la vie, je crois que chaque décennie de notre vie nous apporte, nous conduit à affronter des épreuves, quelle que soit notre personnalité. En fin de compte, il y a un déterminisme commun.
Donc, Ulysse au supermarché. Entre autres.
Mais
Gulli, voilà. C'est moins dans l'élément liquide, dans l'élément azur, dans la fluidité de votre enfance à vous. Il est plutôt au supermarché, il est plutôt confronté aux écrans. C'est aussi ça le constat du livre.
Bah, j'aime les bateaux et j'aime les déesses, mais en effet, aujourd'hui, je crois que ce qui est assez intéressant, c'est le quotidien dans lequel nous vivons. Tout auteur, tout écrivain, par définition, décrypte le quotidien dans lequel il est. Et ce quotidien, aujourd'hui, il est quand même extrêmement révélateur d'une forme, je trouve, de consumérisme.
Claire Berest, je vous voyais sourire quand Olivier Frébourg disait « j'aime les déesses ». Vous aimez aussi les déesses. En tout cas, à lire Rien n'est noir, on est en présence d'une véritable déesse qui s'appelait Frida Kahlo.
Voilà. Oui, et une déesse à mains égards parce que je pense qu'elle était en premier lieu une sorte de magicienne, mi-magicienne, mi-sorcière, mi-déesse aztèque, ça fait trois mi, ça fait beaucoup de mi, pour Diego Rivera, pour son mari, pour son amant, pour son ogre dévorateur. Elle était une déesse pour tous les gens qu'elle rencontrait, comme une déesse thaumaturge. Elle soignait. Elle rencontrait une personne, en une seconde, elle le touchait, et la vie prenait une autre couleur. Vous parliez à l'instant, la vie n'est pas unicolore. Ça m'a vraiment marqué. Elle est une déesse aussi pour beaucoup de gens aujourd'hui, avec ses qualités et ses défauts. Elle est un petit peu dans l'air avec nous en ce moment.
Beaucoup de couleurs. D'ailleurs, le titre, c'est « Rien n'est noir ». C'est un roman qui paraît chez Stock. Donc, « Rien n'est noir » n'est pas un message à l'attention d'Olivier Frébourg. Hein. D'ailleurs, vous venez de répondre. Hein. L'azur est encore là. C'est une phrase, d'ailleurs, qui est extraite d'une lettre de Frida Kahlo, votre héroïne, Claire Berest. Et « Rien n'est noir », en effet, dans ce livre, mais « Bleu cobalt », comme la rencontre de cette grande artiste avec un non moins grand artiste, Diego Rivera, rouge brasier pour leur mariage, jaune sable ou jaune éclipse pour leur trahison, gris cendre pour la séparation de ces deux amants assez formidables. D'un côté, une poupée menue, c'est votre expression, et de l'autre, un géant à tête de crapaud buffle, mais dont la passion semblait pouvoir s'épanouir jusque dans les étoiles, mais avant tout dans les toiles, celle de Frida Kahlo et les grandes peintures murales, les grandes fresques de Diego Rivera. Ce livre commence par une fête des artistes, des communistes, de la tequila. Eux deux, une nuit d'amour, les cicatrices qui s'exhibent et sur lesquelles il faut s'expliquer avant de se lancer dans le tourbillon d'un amour très orageux. Mais, s'interroge Frida, et vous aussi peut-être Claire Berest, qui a envie de vivre abrité des orages? C'est sa passion pour Diego Rivera que vous avez choisi de nous raconter dans ce roman. Après avoir consacré un livre à une autre orageuse, Gabrielle, qui était votre grand-mère, hein, c'est
ça? Arrière-grand-mère.
Arrière-grand-mère, l'épouse du peintre, d'un
Francis
autre peintre.
Francis Picabia.
Picabia. Et vous transmettez bien les orages dans un style haut en couleur, comme la peinture de ces deux, Diego et Frida. Il y a de l'alcool, il y a des pigments, il y a des bagues, des perles, des insultes, des coups de couteau dans l'étoile, des fausses couches et de vraies œuvres. Breton et Duchamp aussi qui passent par là. Le chagrin, les joies. Mais voilà, Frida Kahlo, elle est morte en 1954. Elle est archi connue. Ses autoportraits sont reproduits à échelle planétaire. Elle a même fait l'objet de films et de poupées. Il y a eu des poupées à l'effigie de Frida Kahlo. Qu'est-ce que vous cherchiez donc à transmettre à vos contemporains en vous lançant en ce roman et en réarpentant, si j'allais dire, le parcours de cette figure archi connue?
Vous avez raison, quand on écrit, je pense qu'on sera d'accord, on pense tout le temps au lecteur. Comme si on lui demandait, si tu as le temps, si tu as envie, est-ce que tu veux rentrer dans ma maison? Je suis en train de refaire les murs, je suis en train de refaire toutes les fondations. Je mets du papier sur les murs aussi, avec des fenêtres peut-être bancales. Et il est tout le temps avec nous. Il y a ce premier dialogue entre nous et nous-mêmes quand on écrit, comme une folie. Mais il y a toujours ce dialogue avec celui qui va venir. Et pour le coup, je pense que pour ce livre en particulier, j'avais envie de transmettre une immense joie. Et de fait, la vie de Frida est remplie de douleurs physiques en premier lieu, le corps qui trahit tous les jours, toutes les secondes. Elle est remplie de douleurs sentimentales, de douleurs de trahison. Mais de manière paradoxale, je n'ai jamais ressenti une telle joie en écrivant. En écrivant Gabriel, c'était passionnant. J'étais avec ma sœur Anne à quatre mains. C'était très, très intense. C'était formidable. Mais je pense que c'était douloureux pour toutes les deux. Mais dans ce que ça a de beau, la douleur. Et ce livre qui parlait de cette poupée désarticulée, cassée, mais de cette poupée qui emporte son monde en permanence, je ressentais cette énergie et j'ai la sensation, avec les quelques personnes qui ont lu ce livre et qui sont venues me voir, que la joie était dans la pièce. Et effectivement, tout ça est une histoire de cicatrices. Comme vous parliez tout à l'heure de qu'est-ce qu'on transmet à ses enfants, on essaye surtout de ne pas leur transmettre nos cicatrices, mais on leur donne ça aussi dans le biberon, on n'a pas le choix. Et il y a toute cette idée de, voilà, je te montre tout ça, je te montre mon corps, il est couturé partout, et maintenant on fait quoi? Maintenant on prend le bateau. Maintenant on va traverser les rideaux de pluie, comme vous évoquiez tout à l'heure, ensemble. Et je crois que peut-être... avec les lecteurs, on a envie de traverser ensemble les rideaux de pluie.
Vous êtes d'accord avec cette mythologie du lecteur que développait, qu'est-ce qu'il sait Claire Berès? Vous pensez, vous aussi, au lecteur, vous, alors, avant de l'embarquer, puisqu'on est dans la métaphore du bateau, c'est vrai qu'un livre, c'est un peu un bateau.
Oui, je crois que tout dépend un petit peu de l'objet littéraire que l'on écrit à ce moment-là. On pense toujours à un lecteur inconnu, le fameux lecteur inconnu d'Alain, mais je crois qu'en même temps, on écrit à la fois... pour soi, il faut écrire aussi pour les autres, et puis dépasser parfois. Tout dépend aussi du projet littéraire, c'est-à-dire est-ce qu'on écrit quelque chose qui est de l'ordre de l'autobiographie, ou on écrit quelque chose qui est un peu hors de soi, comme pourrait faire paraître le livre de Claire, mais qui est un livre où elle met beaucoup d'elle-même. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a deux portraits, il y a un troisième portrait qui est le sien également. Donc, si vous voulez, je crois que le lecteur évidemment est une préoccupation, parce que ce qui est intéressant, c'est de se dire de notre propre histoire personnelle, égoïste, narcissique, qu'est-ce que nous en faisons? Si c'est une petite histoire qui ne concerne que nos petites affaires privées, ce n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est évidemment la transfiguration et la façon dont nous portons cela et dont nous le transformons. Voilà. Donc, je crois que si vous voulez, on passe par des états où à la fois on écrit à la fois pour soi, à la fois pour ce que l'on aime au plus près de soi, donc ça peut être nos enfants, l'homme ou la femme que nous aimons, et en même temps, après, il faut sortir, si vous voulez, de cette sphère strictement intime pour la porter vers l'intérêt des autres.
Merci en tout cas à tous les deux de participer à cette émission. Je parlais de transmission, justement du mot de transmission en commençant cette émission où vous avez repris la balle au bon. Dans transmission, il y a mission. Est-ce que vous considérez, quand vous écrivez aussi, particulièrement dans un monde où les images règnent de plus en plus, prennent le pas, parfois dit-on, sur les mots, ce n'est peut-être qu'une période, peut-être qu'une époque. Est-ce que vous vous sentez en mission dans votre travail d'écriture, Claire Berest?
C'est intéressant parce que hier, en fin de journée, j'étais avec mes étudiants que je vois chaque semaine. Ce sont des jeunes gens qui lisent peu.
Alors des étudiants qui sont...
Qui sont en école de commerce, ouais. Mais que j'ai plutôt pour des matières un peu littéraires. Et c'est intéressant parce que je leur demande de rapporter des textes chaque semaine. Et ils vont piocher souvent dans des paroles de chansons. Ils vont piocher dans des extraits de blogs, des choses qu'ils trouvent sur Internet. Et je vois bien qu'on n'a pas les mêmes fils, qu'on ne fait pas partie de la même génération. Mais il y a des moments suspendus avec eux qui sont jeunes et qui n'ont pas la lecture dans leur corps comme nous avons peut-être eu la chance de l'avoir dès notre plus jeune âge. Mais à certains moments, les mots et les virgules font mouche, et ils font mouche pour tout le monde, garçons, filles, de toutes les générations. Et moi, je suis très confiante. Je ne suis pas du tout dans une idée de « c'était mieux avant », où on va, les livres ne se vendent plus, etc. Moi, j'ai l'impression... toujours d'un formidable élan. Je lis beaucoup de livres qui sortent en permanence et je tombe de ma chaise souvent avec des premiers romans de jeunes hommes et de jeunes femmes. Alors évidemment, le monde actuel est parfois très légèrement un carrefour de névrose, comme les supermarchés, on est d'accord. Mais de fait, j'ai l'impression tout de même que ce qui nous est proposé, oui, je pense que les écrivains sont en mission. Ils se le disent pas comme ça.
Mais quand ils écrivent aussi.
Bien sûr, mais... quand ils lisent et quand ils écrivent. Je sais pas si c'est pareil pour vous, quand c'est très très difficile dans la vie. Moi j'ai essayé les médicaments, tout ça. Ce qui fonctionne, c'est de lire. C'est de lire. Et tout d'un coup, ça raccroche au monde et ça fait qu'une nouvelle journée fait table rase de celle de la précédente. Je suis très optimiste et oui, je pense qu'on est en mission, mais je pense qu'on ne se le dit pas comme ça. Comme vous l'évoquiez à l'instant, je pense que quand on écrit, il y a une part de... on écrit pour soi, on écrit pour réparer. Comme je pense que, par exemple, Frida Kahlo peignait pour réparer.
Vous disiez que vous au lecteur tout à l'heure. Donc c'est les...
Oui, mais il y a plein de fils. Au moment où on entame un livre, la nécessité de ce sujet parmi mille autres, pourquoi on le choisit? Bien sûr qu'il y a une part d'égoïsme. Pas d'égoïsme, mais il y a une part de... là, j'ai un trou béant et je sens que ça va hurler, et puis ça va se mettre dans le cadre et ça va réparer de faire ce livre. Puis dans le processus, parce que c'est un peu long d'écrire un livre, là les lecteurs s'invitent en nous, dans différentes étapes aussi, parce que quand on écrit, en tout cas dans mon expérience, il y a toujours un premier jet qui est un peu comme une rivière dont le barrage vient de céder. Et bien sûr là il y a plein de scories. C'est-à-dire que ce premier jet, il va y avoir des petites perles aussi, des choses qu'il va falloir glaner. Ça sort, ça déborde, ça hurle dans tous les sens. Et après, il y a ce temps long que j'apprécie infiniment. On reprend tout ça. Et là, alors, il y a plein de choses qui vont pas du tout. On coupe, etc. Et là, le lecteur est avec nous. Parce que c'est une histoire qu'on lui raconte. Et je trouve que d'être un raconteur d'histoire, ça, c'est une mission millénaire. Et on est extrêmement chanceux, je crois, d'avoir cette position-là.
Sur ce mot de transmission et de mission, Olivier Frébourg, d'ailleurs, je précise que vous êtes écrivain, vous êtes aussi éditeur, donc vous êtes aussi dans une autre forme de passage de texte, en fait.
Oui, ça, là, c'est un vaste débat. Moi, pour reprendre ce que disait Claire, alors moi, je crois beaucoup au tableau, je crois à la peinture, je crois au grand noir, je crois au grand bleu, je crois à l'outre-mer, je crois à l'outre bleu, à l'outre noir. Je crois à l'image quand elles sont à la photo, quand elles sont, par exemple, de Tina Modotti, dont vous parlez, qui est une photographe qui a participé un petit peu à ces années folles, je dirais, entre guillemets, et dont moi, les photos me semblaient aussi belles qu'un tableau. Voilà. Ensuite, le flux d'images dans lequel nous vivons aujourd'hui, à un moment, nous sommes à une saturation. Et je crois que ce qui nous sauve, la seule chose qui nous sauve dans nos vies, c'est la beauté et le sacré. J'y crois considérablement. La beauté, donc la peinture, moi la peinture c'est quelque chose qui me relève immédiatement. Un tableau, je trouve que c'est presque un antidote magnifique justement pour sauver du malheur.
Et alors, je ne parlais pas de ces images-là forcément, du flot d'images qui ne sont pas forcément toujours des tableaux.
Voilà, je comprends. On aimerait. Mais voilà ce que je me semble être le plus important, c'est cela. Et aussi évidemment les livres, parce que les livres, si vous voulez, c'est à la fois un travail sur la mémoire, sur le temps, hein, c'est ce qui nous permet de rattraper, c'est le filet qui nous permet de rattraper cette fuite, cette cavalcade, cette accélération du temps, donc ça me semble absolument essentiel. Et si vous voulez, c'est à la fois l'art et la littérature, eh bien, c'est à la fois la résistance profonde contre la mort et contre les forces mortifères qui essaient justement de transformer ou de contrôler le monde. Et puis, c'est une chose extraordinaire qui est la liberté. La liberté. Mmh. Voilà. Et ça, je crois que, si vous voulez, là, cette conquête de la liberté, grâce à un livre, eh bien, c'est le plus beau des voyages. Ensuite, si vous me posez la question comme éditeur, oui, je pense que, si vous voulez, il faut absolument, absolument mettre le livre au cœur du monde et au cœur de la cité, et notamment en France, où on a encore beaucoup de travail à faire, même si nous avons la chance de vivre dans une nation pétrie, née de littérature. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est en effet que notre jeunesse lise, c'est absolument important, à la fois pour la transmission, à la fois pour critiquer le monde dans lequel nous sommes, et en même temps pour gagner cette liberté qui est le propre et la quête de tout individu. Voilà. Et quand on regarde justement dans le livre de Claire ce qu'étaient ces années du début du 20e siècle, à la fois cette folie, cette bringue gigantesque, où se mélangeait à la fois, évidemment, le politique, notamment le communisme, et en même temps le sentiment, parce que et la peinture au couteau, en quelque sorte, c'est vrai que l'alliance est absolument magnifique, et l'alliance est extrêmement romanesque. Voilà. Donc le livre, la littérature et la peinture, ce sont des noces, si vous voulez, absolument essentielles, et ces noces-là, c'est ce qui nous permet de sauver la beauté du monde. Voilà, je crois que c'est ce que nous essayons dans nos petites vies de préserver malgré toutes les agressions extérieures.
Donc noces, c'est pas divorce, Claire Berès.
Si je puis juste me permettre de rebondir sur ce que vient de dire Olivier, parliez de la peinture et du politique. Moi, ce qui m'intéresse aussi chez Diego et chez Frida, Diego Rivera, c'est un homme qui se revendique pas comme un peintre, mais comme un peintre communiste révolutionnaire. Quelle est son arme? Quel est son moyen de faire la révolte? Ce sont les images. Alors, comme il est tout à fait dans la démesure, notre ami Diego, il va pas peindre des petits tableaux, il va peindre des milliers de mètres carrés de murs. Mais pourquoi c'est la révolte et la rébellion, les images? C'est parce que ces murs recouverts comme des cathédrales modernes, elles sont adressées au peuple qui parfois est analphabète, qui ne peut pas lire, pour lui dire voici ton histoire, voici tes racines sublimées, parce que tu es un morceau de l'humanité. Et effectivement, moi, ça m'a permis de réfléchir à nouveau, après avoir été avec Gabriel et Francis Picabia, c'est vrai, à ce pouvoir-là de l'image.
Couleur et liberté, ce sont un peu les mots aujourd'hui qui planent au-dessus de cette émission. On continue avec vous, Olivier Frébourg et Claire Berest. On commence par « Où vont les fils au Mercure de France ?» C'est le titre de votre livre, Olivier Frébourg. On écoute votre choix musical. Vous avez choisi « Le large », on en parlait, de Françoise Hardy.
France Culture, le temps des écrivains.
Aucune histoire banale gravée dans ma mémoire.
Christophe Onodibio.
Aucun bateau pirate ne prendra le pouvoir. Aucune étoile filante me laissera dans le noir. Aucun trac, aucun. Et demain, tout ira bien. Tout sera loin. Là au final, quand je prendrai le large, tout sera loin. Donne-moi la main. Là au final, quand je prendrai le large, aucune larme, aucune ne viendra m'étrangler. Aucun nuage de brume dans mes yeux délavés. Sable ni la dune n'arrête le sablier. Aucun quartier de lune, aucun et demain. Tout ira bien, tout sera loin. Là au final, quand je prendrai le large, tout sera loin. Donne-moi la main. Là quand je prendrai le large.
Le large de Françoise Hardy, c'est le choix musical d'Olivier Frébourg. Pourquoi ce choix musical? Vous parliez des paquebots de votre enfant, c'est ça?
Alors oui, d'abord parce que j'ai une grande affection et admiration pour Françoise Hardy, qui tient un rôle important dans ma vie. Et puis ensuite, parce que c'est une chanson, en fin de compte, voilà, de grand calme, à la fois... De navigation ultime et en même temps où elle tend la main à son propre fils. Voilà.
Vous publiez ce livre au titre en forme de question « Où vont les fils ?» dans lequel un homme semble faire le deuil de son passé, le deuil de sa femme qui n'est pas morte mais qui est morte à lui presque puisqu'elle est partie de façon rock'n'roll, comme elle le dit elle-même. Elle lui laisse les enfants qu'il adore, enfin, ils les ont en partage.
Elle est en partage,
voilà,
absolument.
Voilà, trois fils, dont le plus petit a perdu son jumeau à la naissance, et c'est en cela que ce livre fait aussi presque une suite, en tout cas un écho à un livre que vous avez publié en 2011, hein, Gaston et Gustave. Ce sont eux, hein, les fils dont ils parlent, dont ils se préoccupent, notamment de la température de leur corps. Dans leur maison normande, il a peur qu'ils aient froid. Des fils qui sont peut-être les destinataires de ce texte de deuil. Je dis texte de deuil, d'ailleurs, ça vous convient?
Alors, non, c'est-à-dire que je pense que c'est un texte, si vous voulez, qui traverse certes des épreuves, mais qui est un livre, en fin de compte, qui montre, si vous voulez, que toute renaissance, quels que soient les drames ou les épreuves que nous vivons, est évidemment possible, à la fois parce que nous pouvons vivre d'autres histoires d'amour et
mais
parce que
deuil,
aussi...
Mais le deuil, c'est aussi ça.
Absolument. Et c'est parce que aussi, il y a une chose magnifique, qui sont la joie et l'innocence des enfants. Et ça, c'est là où je disais tout à l'heure que parfois nos propres enfants pouvaient être nos propres parents, en sens que, si vous voulez, ils vous poussent, ils vous élèvent, ils vous montent vers le ciel. Donc, si vous voulez, là, il y a quelque chose de beaucoup plus allègre. Voilà. Donc, ce n'est pas un livre, si vous voulez, d'un deuil définitif. C'est un livre qui fait le constat d'une mémoire et d'un passé soldé.
Alors, justement, je disais que ces fils sont peut-être, pour le narrateur, les destinataires de ce texte. Pas forcément parce qu'ils voudraient connaître ou qu'ils auraient besoin de connaître l'histoire d'amour, l'histoire des amours défuntes de leurs parents, mais parce que peut-être ils voudraient ou ils devraient connaître ce que fut le monde d'avant, quand les vies n'étaient pas vouées à l'oubli, comme vous l'écrivez, dans lequel les réseaux sociaux, peste soft power, brouillaient amours et amitiés. Car ce livre, Olivier Frébourg, est aussi, hein, même si vous dites que c'est le livre d'une renaissance, un terrible état des lieux sur le monde d'aujourd'hui, le monde où vivent donc les enfants du narrateur, le monde d'un présent éternellement dépassé par son propre présent, en fait, sans mémoire, sans trace, sans transmission peut-être, contrairement à l'époque et à l'enfance du narrateur, où l'on révérait les films de sauter, les paquebots, les tirages papier des photos, il y a un passage là-dessus, où on attendait comme une surprise le résultat, alors qu'aujourd'hui on le voit instantanément. Olivier Frébourg, est-ce qu'un écrivain est quelqu'un dont la tâche est de faire l'état des lieux de ce qui est en train de disparaître, un peu comme un archiviste, un peu plus poétique qu'un archiviste. Alors, moi, rien contre les archivistes, mais disons, il peut se permettre autre chose.
Oui,
aussi.
C'est-à-dire que ce n'est pas que j'ai nous avons tous la nostalgie, évidemment, de notre enfance, mais je n'ai pas du tout voulu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'écrire ce que nous vivons aujourd'hui. Tout écrivain, par définition, il est curieux de son époque. Et moi, cette époque, notre époque, elle excite ma curiosité énormément. Ce qui est intéressant, c'est parfois de la comparer par rapport à ce que nous avons pu vivre, notamment notre rapport à l'histoire. C'est ça qui m'intéresse énormément, c'est notre rapport à l'histoire, à la grande histoire. C'est-à-dire comment nous, on nous a transmis, nous avons vécu quand même dans la mythologie, dans la construction des guerres, Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, débarquement, résistance, épuration. C'est ce qui a construit ce qu'on appelle le fameux roman national. Bon, eh bien, nous-mêmes, nos propres histoires de famille sont construites, alors de façon parfois figée, forcée, par, en effet, des albums de photos, par une mémoire. Bon, et moi, je suis toujours fasciné. Alors, je peux vous dire par deux choses, par les monuments aux morts, souvent des guerres, et en même temps par les cimetières. Qu'est-ce qu'il reste de nos vies? Qu'est-ce qu'il reste de milliers d'histoires d'amour, de baisers, de voyages, de souffles, d'heures, de palpitations? Qu'est-ce qu'il reste? Il reste souvent une date sur une pierre gravée.
Et deux jours. Oui.
Ou deux.
Ou deux.
Ou deux. Ce qui me frappe aujourd'hui, si vous voulez, c'est cette grande amnésie, si vous voulez, du temps. Et moi, je crois que justement, pour vivre pleinement le présent, pour le vivre, mais intensément, pour le vivre amoureusement, il faut que nous préservions ce rapport à une mémoire, à une transmission.
Donc il faut l'écrire.
Il faut l'écrire. Ouais. Voilà. Et l'écriture retient, si vous voulez, comme un filet et permet, si vous voulez, de transmettre, si vous voulez, la continuité du chaînon humain. Et si nous n'avons pas ça, c'est nécessairement une barbarie. Obligatoirement, et nous le voyons chaque jour dans notre capacité à répéter nos crimes contre l'humanité et l'extermination des êtres. Voilà, c'est-à-dire que l'homme, en même temps, il est mué par des forces, malheureusement, de destruction absolument terribles.
Vous rappelez, d'ailleurs, dans ce livre, les guerres du XXe siècle, alors que n'a pas connu le narrateur, le souvenir des Khmers Rouges, vous avez bien connu le Cambodge, post-Khmer Rouge. Et le livre s'ouvre d'ailleurs presque, pas dès la première page, mais quelques pages après, par une lettre. Qu'est-ce que c'est que cette lettre? C'est une lettre de votre grand-oncle que vous allez lire, mais qu'est-ce que c'est que cette lettre et en quoi il était important de l'enchâsser
C'est tout simple. Quand j'étais enfant et que j'allais chez mes grands-parents paternels, il y avait la photo d'un homme qui était le frère de ma grand-mère. Cet homme avait été un résistant qui avait été fusillé et c'était un énorme chagrin pour ma grand-mère, dont le frère avait été tué par les Allemands. Et donc j'ai vécu enfant avec les photos de cet homme. Et un jour, mon père m'a donné la lettre qu'avait écrite cet homme avant d'être fusillé. Et donc, si vous voulez, ce sont des choses que nous transmettons, que toutes les familles se transmettent parfois, qui est un souvenir. Et cette lettre, moi, en fin de compte, elle m'a accompagné et je n'en ai compris, en fin de compte, que la révélation, la force que peut-être à l'âge adulte. Parce que ce livre, Où vont les fils, pour moi, c'est à la fois un livre sur l'enfance et c'est un livre sur la résistance. Comment nous résistons? C'est-à-dire que nous ne résistons pas évidemment de la même façon à l'occupant allemand, nous ne résistons pas non plus contre des drames absolument terribles par rapport à nos propres soucis intimes, par rapport à nos propres, justement, guerres intimes. Mais nous devons aussi y opposer une forme de résistance. Et c'est pour ça que j'y ai mis cette lettre.
Et le divorce aussi, la fin de l'amour, correspond justement à ces guerres intimes dont vous parlez.
C'est ce qui est tragique dans nos petites sociétés occidentales et magnifiquement nourries, c'est que nous n'avons trouvé comme Iliade et comme épopée que justement, bien souvent, je parle des sociétés occidentales relativement préservées par les guerres, même si la Syrie est autour de nous, si nous avons le drame kurde, etc. aujourd'hui, les sociétés occidentales, justement, ont déchaîné, en fin de compte, les guerres entre les hommes et les femmes. Alors que nous, moi, j'avais eu le sentiment de vivre une époque absolument pacifiée dans les rapports, justement, entre les hommes et les femmes. Après, c'est un constat, c'est une notation objective. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas un constat de dépit.
Qu'est-ce que vous voulez dire que l'époque a déclenché les guerres entre les hommes et les femmes? C'est vrai qu'elle rencontre, ce livre rencontre aussi.
Je crois beaucoup aux grands livres, qui sont, je crois, beaucoup à la Bible, aux évangiles, en tout cas, enfin, je crois beaucoup à l'Odyssée, je crois beaucoup à l'Iliade. Si nous lisons l'Iliade aujourd'hui, ou l'Odyssée d'Homère, ce n'est pas à vous que je l'apprendrai, Christophe, eh bien voilà, ce qui est intéressant, c'est de le transposer aujourd'hui. Qu'est-ce que sont, justement, nos combats, nos épreuves, et comment, en fin de compte, si vous voulez, les dieux agissent sur nous, et comment, en fin de compte, les gorgones, les épreuves, eh bien, peuvent aussi revêtir d'autres formes aujourd'hui. Et nous vivons des petites Iliades modernes chaque jour. C'est ça qui est intéressant.
Non, mais vous disiez que l'époque avait déclenché la guerre entre les hommes et les femmes.
Je dis pas que la guerre n'est pas... Là, pour le coup, je ne crois pas du tout. Moi, je crois profondément, et j'espère, des rapports pacifiés, amoureux entre les hommes et les femmes. Je dis simplement qu'il y a une chose qui est très 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 net, c'est que les histoires d'amour ont absolument volé en éclats de façon extrêmement rapide. Donc là, je ne porte pas un jugement
moral.
C'était
pas le cas d'avant.
C'est-à-dire qu'il y avait une construction sociétale. Et c'est toute la difficulté pour un écrivain. Moi, je ne suis pas un sociologue. Moi, je suis pour l'évolution des mœurs la plus totale. Mais après, l'auteur, il observe les choses. Il ne juge pas. Donc, si vous voulez, je ne suis pas ni un juriste, ni un sociologue. Ce qui est intéressant, c'est d'observer l'éclatement des familles. Voilà ce qui m'intéresse.
On est passé du monokini au monoparental.
Absolument. C'est ça qui m'intéresse. Après, justement, toute la difficulté est de pouvoir raconter les choses sans y apporter un jugement moral. Voilà. Et donc, moi, je ne parle que d'une chose que j'ai vécue, parce qu'il y a des évolutions, et puis après, il y a ce que nous ressentons dans notre propre corps, dans notre propre blessure, justement.
Je voudrais qu'on vous entende lire justement cette lettre de votre grand-oncle dont vous parlez, que vous offrez au lecteur. Hein. Là, on est de l'intime à l'extime. Que vous nous offrez, Olivier Frébois.
Chérie, voici la dernière heure arrivée. J'ai songé à toi toute la nuit, du samedi à dimanche, en pensée intime avec toi-même et mes enfants. Le dernier moment est arrivé. Je meurs avec courage, mais je songe à vous. Ma chérie, je regrette de ne pouvoir faire ma vie avec toi. Tu as été une compagne adorable, gentille et une bonne mère. Tu élèveras nos enfants dans l'honneur, la probité et le travail. J'ai pensé à toi tous les jours et les nuits, et combien j'aurais désiré vivre le reste de mes jours avec toi. Tu auras la consolation que j'étais en communion intime avec toi. Dans le procès, je n'ai pu faire admettre ma non-culpabilité, pourtant exacte, je te le dis au seuil de la tombe. Les plus à plaindre sont ceux que je quitte. Je souhaite un monde meilleur et un siècle d'égoïsme déchu. Pour toi, ma chérie, tout mon amour et mes chers enfants. Dans un si pénible moment, je mets dans un même creuset tous mes amis. Je meurs dans le salut de la religion. Depuis mon incarcération, j'ai prié bien des fois. Adieu chérie et mes enfants, mille baisers et caresses.
Merci Olivier Frébourg. Extrait de Où vont les fils? Donc c'est une lettre de votre grand-oncle, voilà, qui compte beaucoup sur vous et que, pour vous, pardon, et que vous avez désiré offrir au lecteur. Je vous redemandais de relire, en fait, parce que pour bien faire comprendre ce que c'est que ce livre, page 123, autre guerre, beaucoup plus intime, et où là, le narrateur se retrouve, voilà, qu'est-ce que c'est qu'être un père seul?
J'explorais désormais les arcanes de la paternité solitaire. J'avais mis genoux à terre. Il ne me restait plus qu'à me coucher sur mes enfants pour les protéger et attendre la fin de la tempête. C'en était fini de la littérature. J'étais dans le dur. Une vie enchaînée et en même temps déchaînée dont je portais la responsabilité. Je voyais la vie de façon binaire, le monde d'avant et celui d'après. Une ligne de fracture nette, identifiée. Son départ, ses adieux. Depuis, j'avais connu la ruine, l'humiliation devant les tribunaux, assignée par celle avec qui j'avais partagé l'amour, et plus encore cette part qui nous dépasse, nous transfigure, l'alliance incommunicable des âmes et des peaux qui ont poussé ensemble et repoussent nos égoïsmes. C'en était fini de la magie, de l'émerveillement, de la découverte d'un pays ensemble. Le voyage, le vrai voyage, s'était terminé. Dans le monde d'avant, lors de ma petite incursion au Vietnam, j'avais enregistré sur un magnétophone une lettre à mon fils aîné au cours d'une navigation dans la baie d'Along, épargnée alors par le tourisme de masse. Partager cette beauté était désormais impossible. Je ne pouvais plus emmener mes enfants vers l'ailleurs, hors du quotidien, cette dalle de béton.
Merci Olivier Frébourg. Alors je voulais que vous lisiez ces deux passages parce que on comprend bien que le livre est construit par petits morceaux, comme si vous vous efforciez de raccommoder, de recoller les morceaux, de raccommoder les petits morceaux de texte. Hein. Je le dis souvent ici, mais j'aime beaucoup qu'un texte, étymologiquement, c'est un ensemble de fils. Alors, où vont les fils? Où vont les fils? C'est vrai qu'il y a, dans le mot fil et fils, en tout cas au pluriel, cette ambiguïté très très intéressante. Proximité entre les deux mots, oui, le fil et le fils.
C'est en effet, vous avez tout à fait raison, Christophe, c'est-à-dire que c'est à la fois les fils de la mémoire, ça bien évidemment, et puis un livre, c'est quelque chose qui se trame, c'est-à-dire que cette histoire, elle est déjà très ancienne pour moi, et donc si vous voulez, vous reprenez des notes, des extraits de journaux, et ensuite vous reconstituez quelque chose qui remonte peu à peu à la surface.
C'est un livre qui est nourri de littérature et qui donne aussi de la littérature, la vôtre et puis celle d'autres écrivains que vous citez. Notamment, vous évoquez un livre qui compte beaucoup pour le personnage de la femme qui est partie, Fugitive d'Alice Munro, un recueil d'histoires de femmes qui quittent sur un coup de tête mari et famille parce qu'elles n'en peuvent plus. La littérature donne aussi de mauvaises idées, Olivier Frébault.
Non, alors justement, je parlais de la littérature comme la liberté. Donc moi, je suis absolument pour une liberté absolue des individus et des êtres. Donc si vous voulez, c'est aussi ça que je veux dire. C'est-à-dire que, quelles que soient les souffrances que vous endurez dans une séparation, la liberté est non négociable.
Il y a très belles pages, je le disais, je mentionnais tout à l'heure ce passage où pendant la nuit, en fait, le père est inquiet quand en fait il l'entend pas, donc il est aux aguets, le chauffage se mettre en route dans la maison parce qu'il pense aux petits corps de ses enfants dont il détesterait, il se haïrait en fait de leur faire prendre froid. Vous citez l'Ecclésiaste, vous parliez de la Bible tout à l'heure. Il est beaucoup aussi question du silence des églises, de la religion. En cela, vous n'êtes peut-être pas de votre époque. C'est vrai qu'on disait l'image prend aussi le pas sur les mots, on a cette impression-là. Les églises aussi se vident, ça se repeuplera peut-être. En tout cas, pour vous, il y a ce côté-là. C'est au fond des églises que votre narrateur trouve le réconfort. Je vous cite, « Je n'avais pas honte devant Dieu et la Vierge Marie. Marie, dans sa beauté magnifique, me semblait au-dessus des luttes de pouvoir et de territoire. » Vous citez l'Ecclésiaste, à la fois Homère d'ailleurs et l'Ecclésiaste. On ne se souvient plus de ce qui a précédé, et de même les choses qui doivent arriver après nous seront oubliées de ceux qui viendront ensuite. Est-ce que c'est pas en effet le propre de toute génération, et les écrivains en font le constat, de voir son monde s'écrouler par rapport au monde qui naît pour ses enfants, justement, un nouveau monde?
Alors, la question est vaste. Je veux dire, ça me semble extrêmement important, je le disais tout à l'heure, d'être curieux de son époque, c'est ça qui me semble intéressant. L'écroulement, l'effondrement, il y en a deux types. Il y a l'écroulement et l'effondrement historique, générationnel, quand il y a un séisme qui peut se passer, une guerre, etc. Et souvent, on a besoin d'une amnésie. Regardez les années folles, après la guerre de 14, que Claire connaît bien. Et évidemment, si vous voulez, ça peut vous sembler absolument scandaleux d'aller danser à Montparnasse, dans les nuits chaudes de Montparnasse, alors qu'il y a eu le chemin des dames. Est-ce qu'on peut faire la fête en 47 ou en 48 dans des dancings de France quand il y a eu les camps de la mort?
Certains la faisaient en 44, voilà, malheureusement.
Voire en 44, ouais. Absolument. Ouais. Bon. Donc, si vous voulez, cette question d'un effondrement d'une époque ou de son époque...
Et certains écrivains, d'ailleurs, je mentionne, qui auraient pu être un peu plus lucides.
Me semble, si vous voulez, être justement le creuset de la littérature. C'est ça qui fait que nous devons raconter les choses.
Mais après, prendre acte aussi de la rupture d'époque, du changement d'époque.
Prendre acte que des ruptures et des changements, et en même temps de ces différents chaînons. Ensuite, l'effondrement que nous pouvons ressentir sur un plan personnel à travers des histoires, des épreuves, des adversités que nous ressentons, est encore un autre problème. Et parfois, ce qui est intéressant, c'est de voir justement mêler, si vous voulez, les deux chaos, le chaos intime et le chaos historique. Cette rencontre avec le chaos me semble absolument intéressante.
Non, mais je pensais de prendre acte aussi du fait que, puisqu'il est question de transmission, qu'on va transmettre des choses qui n'existent plus et qui n'existeront plus.
C'est ce que, justement, c'est l'invisible. C'est ça qui me semble justement intéressant. Et vous parliez des églises tout à l'heure, moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est justement l'unité, à la fois qui est l'unité de l'enfant avec sa mère et ce déchirement. Ça, c'est tout de même le début de l'arrachement. Et ensuite, si vous voulez, la mort. Donc, ensuite, nous avons un épisode de transition qui est la vie. Mais enfin, si vous voulez, nous avons ces deux infinis,
ces deux dates,
auxquelles nous devons à un moment nous confronter. Et la vie fait que nous sommes dans un divertissement pascalien où on essaie de trouver des choses pour oublier cela. les églises me semblent très intéressantes. Parce que d'abord, moi, les églises comme la peinture, ce sont des lieux où je me soigne. Je me soigne par leur silence, par leur beauté, par leur épure. Donc, si vous voulez, que l'on soit d'ailleurs croyant ou pas, tout lieu saint et tout lieu de silence est un lieu qui nous soigne. Voilà.
Oui, vous parlez comme... aussi des temples du Cambodge.
Voilà,
vous
on peut ressentir ça dans tous ces lieux. Or, justement, ce sacré, aujourd'hui, et ce sacré, il n'est pas que dans la religion, hein, il est dans l'art, etc., me semble aujourd'hui, en effet, menacé. Voilà. Et la littérature, la mémoire, justement, le papier qui me font le livre, c'est bien le livre aussi imprimé, me semble aujourd'hui, en effet, menacé par une forme d'amnésie gigantesque.
France Culture, le temps des écrivains, Christophe Onodibio.
Claire Berest, quand on entend, quand vous entendez Olivier Frébourg parler d'un monde menacé et d'un monde peut-être que la littérature s'efforce de faire renaître, hein, évidemment, il mentionnait, Olivier, vous mentionniez cette époque de folie dans laquelle Diego Rivera et Frida Kahlo se débattent. Est-ce que ce livre, il est fait aussi pour... on est dans les églises, on n'est pas loin de la résurrection, mais pour donner aux contemporains l'idée, alors soit d'un monde révolu qui ne réapparaîtra plus, ou l'idée que ce monde pourrait réapparaître, pas seulement le temps d'un livre et le temps de la lecture, mais peut-être qu'il ne tiendrait qu'à nous d'essayer de vivre de la façon dont vivaient Diego Rivera et Frida Kahlo, entre alcool, création, fièvre, communion, rage de vivre, danger aussi, coup de couteau dans l'étoile, mais de vivre intensément, comme peut-être nous croyons vivre aujourd'hui, mais nous ne vivons pas.
C'est une question tout à fait intéressante.
Je vous remercie.
Qui a 1000 portes d'entrée. J'ai écrit différents livres dans ma vie. Certains sont ancrés avec des personnages qui ont vraiment existé, Diego et Frida, Francis et Gabriel, dans des époques très précises, le début du XXe siècle, les années folles, ce début du XXe siècle où le temps est métamorphosé à jamais avec les deux guerres mondiales qui vont faire s'abattre des guillotines sur tout et tous. J'ai écrit des livres qui s'ancrait également dans notre quotidien, des fictions. J'ai écrit des livres où j'essayais d'observer mon quotidien. J'ai passé du temps à la Brigade des mineurs de Paris pour parler des adolescents aujourd'hui. Je peux vous dire une chose, j'écris toujours de la même manière. Quand je parle de Frida et de Diego, je parle d'aujourd'hui. Je n'ai aucune nostalgie d'une époque que je n'ai pas connue. J'ai éventuellement une nostalgie de choses que j'ai perdues moi dans ma vie, à ma toute petite échelle, quand j'écris sur Francis et Gabriel ou quand je parle des adolescents aujourd'hui confrontés à une nouvelle sexualité, à un problème de l'image, aux réseaux sociaux, j'écris toujours de la même manière et avec la même exigence. Je ne crois pas aux romans historiques ou aux romans contemporains. Je pense que quand on écrit sur des hommes et des femmes, sur la mort, sur la transmission, sur l'amitié, on parle toujours du monde dans lequel on respire et on s'agite. Ça, c'est un premier point. Vous parliez des traces d'une certaine manière tout à l'heure et je pense que c'est absolument essentiel. Je pense que quand on écrit, on court après les traces. Une toute petite anecdote, je raconte dans mon livre Diego qui veut divorcer de Frida. C'est la trahison ultime. C'est inaudible. Et elle reste là en face de lui et elle ne bouge pas. Parce que c'est une manière de dire non, c'est non mis à mort, jamais. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre un petit cadre dans lequel elle conserve depuis une dizaine d'années un papier sur lequel il a inscrit lors de leur première nuit d'amour « Je t'aime ». Juste ça, ni plus ni moins, c'est le monde. Et il va casser le cadre et il va déchirer le papier en tellement de morceaux que cela, lui dit-il, tu ne pourras pas les recoller. Je pense que ça, c'est essentiel sur cette idée de trace, sur ces papiers que l'on trimballe, sur cette lettre que vous nous avez lue tout à l'heure, qui est sublime et qui est vertigineuse. Cette idée des derniers mots que l'on dit quand l'on sait, pour le coup, la date, la deuxième date. On n'est pas censé la savoir. Qu'est-ce qu'on écrit comme mot? Quand Frida sait que ce sont probablement ses derniers mots à Diego, elle lui dit « Est-ce que tu peux éteindre la lumière et fermer la porte ?» Et elle écrit dans son journal « J'espère que la sortie est joyeuse et j'espère ne jamais revenir. » tout ça, c'est des choses qu'on prend en charge quand on écrit. Cette idée que nous savons tous pourquoi nous sommes des êtres humains, c'est parce que nous sommes des êtres de finitude, parce que nous sommes des éclats extrêmement fugaces et fugitifs, et qu'on se débat là-dedans parce qu'on en a conscience. Mais qu'en revanche, je pense que quand on parle des années folles, quand on parle de ces fêtes, oui, on parle d'aujourd'hui. Je ne regrette pas des fêtes que je n'ai pas connues.
Non, je parlais pas de regret ou de nostalgie. D'ailleurs, dans le mot nostalgie, il y a le mot douleur, hein, la douleur du retour. D'ailleurs, le retour est impossible. Hein, voilà. Mais cette idée de peut-être aussi donner une leçon de vie aussi aux contemporains. Je dis juste, pour celles et ceux qui nous rejoindraient, que votre roman, car c'est un roman, Rien n'est noir chez Stock, nous raconte la passion, l'amour, la vie de création, le moment de vie de création, d'amour physique, d'amour total et d'amour qui est fécondé justement par l'art, de Frida Kahlo et Diego Rivera. Alors, on est au Mexique dans ces années aussi formidables, puisque Frida Kahlo est mort en 1954.
54.
Et aussi, c'est une histoire de corps, le corps énorme, la tête de crapaud buffle, hein, comme vous l'écrivez, de Diego Rivera, et puis le corps démantibulé, fracassé à la suite d'un accident. Elle a vécu dans un véritable sarcophage, Frida Kahlo. Il y a énormément de jouissance aussi. Ces corps monstrueux jouissent, j'ai failli dire comme jamais, comme rarement, mais en tout cas, jouissent, et vous vous attachez à décrire ça. Je disais tout à l'heure, il y a de l'alcool, il y a de la couleur, rien n'est noir, parce que chacun des chapitres s'ouvre par une couleur que vous raffinez, hein, le jaune éclipse, le jaune de sable, le rouge brasier, le bleu cobalt, ça on connaît. Il y a d'autres bleus d'ailleurs, il y a le bleu pénétrant aussi quand ils font l'amour. Il y a de l'alcool, il y a des pigments, il y a des bagues, des perles, des insultes, je le disais. C'est un véritable roman. Et je reprends ma question, est-ce que ce roman-là aussi, déjà, je voudrais que vous m'expliquiez en quoi c'est pas un récit, donc en quoi c'est un roman, et en quoi il est fait aussi peut-être pour secouer notre époque, ou pas du tout?
Frida, elle m'a sauvé la vie à plein de moments, parce que je la fréquente depuis 20 ans, parce que elle a cette capacité qui est propre à elle, mais qui dit aussi quelque chose du Mexique. Elle est mexicaine. C'est cette idée que potentiellement dans chaque journée, il y a une catastrophe et une épiphanie. Que dans chaque fête, il y a alors la muerte et la vida, la vie et la mort au coude à coude. C'est Eros et Thanatos, on connaît cette dualité-là. Mais chez Frida, qui littéralement vit dans un corps qui est, j'allais dire, perclus de clous, parce que c'est comme ça qu'elle le représente sur ses toiles, c'est des centaines de clous figés. Et cette jeune fille, qui avait déjà eu la polio petite, qui après cet accident terrible qui la broie, eh ben son corps, si lourd à porter, il ne ploie jamais. Et que Frida, c'est la première précisément, à lancer la fête, à lancer la fiesta. C'est ça le rien n'est noir. C'est l'idée de tous ces carrefours et ces accidents qui nous tombent sur la tête tout au long de la vie. Et il y a cette idée-là de, et encore un verre, et encore une cigarette, et encore un tableau, peut-être, et encore un livre. Et tant qu'il y a cette énergie-là, alors oui, c'est propre aussi à ce moment-là, mais c'est propre à nous aujourd'hui. Il se trouve que, de fait, Diego et Frida ne sont pas européens, ils sont mexicains. Ils connaissent évidemment l'histoire en Europe, mais eux, ils vivent sur un pays qui était sous une dictature, le Porfiria, pendant 30 ans. Et que, en 1910, il y a la révolution mexicaine. Donc eux, ils sont aussi dans un rapport d'un pays qui se relève, qui a déchiré une chape de plomb qui pesait sur lui, et que tout est à reconstruire. Ils sont communistes tous les deux. Eux, ils regardent les lendemains potentiellement qui vont chanter après eux. Donc oui, il y a cette sorte d'énergie totale de vie.
Mais qu'il fallait apporter aux contemporains.
Moi, je crois que je l'observe chez mes contemporains. Il y a un très beau film qui s'appelle La petite prairie au bouleau, qui est sorti maintenant il y a quelques années, qui se passe au camp de Birkenau, Auschwitz-Birkenau. Des jeunes gens vont visiter le camp avec une dame qui avait été déportée là-bas. Une scène m'a beaucoup frappée. J'ai vu ce film quand il est sorti, j'étais jeune. Ces jeunes gens, ils sortent de là, ils sortent du lieu de l'invisible. Quand il n'y a plus de traces, quand on essaie de trouver ce qui s'est passé dans un lieu, comme quand Lanzmann va chercher dans les forêts ce qui s'est passé. Ces jeunes gens, ils sortent, ils vont en boîte de nuit. Il y a une chanson du type « La Macarena », je sais plus, qui passe, c'est-à-dire la soupe pop populaire. Et tout d'un coup, les corps exultent. Cette scène, non seulement elle n'est pas déplacée, elle n'est pas vulgaire, elle fait un bien. Quand on était enfermé dans ce lieu qui porte dans l'air toute la mort, la destruction, le pire de l'humanité, et on sort et on va danser. Mais ça, c'était Diego et Frida, c'est à ce moment-là dans ce film, c'est partout. Moi, j'y crois, ça. Et effectivement, il nous montre aussi cet exemple-là, mais parce qu'il faut juste le réactiver, parce que parfois, juste, on l'oublie.
Réactivons, je voudrais que vous entendiez lire Claire Berest, un extrait de votre livre « Rien n'est noir », justement, le chapitre, c'est le début du chapitre « Bleu d'acier », sous-titré « Bleu pénétrant qui s'échappe vers la nuit ».
Ils font l'amour, ça veut dire quoi ? Frida s'est déshabillée elle-même et très vite. Jupe jetée au sol, abandonnée sans égard, chemise déboutonnée, bouton, 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 ça coule. Corps nu, culotte glissée, douce, elle porte son corps haut, sans timidité, sans vertu affectée. Elle a apprivoisé le corps très tôt au travers de ses trahisons, trop maigre. Hanches étroites, jambes cramées par la polio, la fille qui boite, Frida jambe de bois. Un capital de chair bien mince qu'elle a observé en tous sens et en toute impartialité. Les creux, les bosses, voilà les cartes, c'est pas la gloire, pas de second tirage. Diego prend d'abord comme un ogre. Il te tombe dessus sans embarras, gourmand, lourd de salive et de dents. Il donne l'impression de ne rien voir, de goûter sans les yeux. Tout entier truffe qui fourrage, il cherche et s'approprie les odeurs, les déclinaisons de couleurs de peau. Empressé et joyeux, il n'est plus que main, déliée et mordante. Un premier tour de piste en propriétaire au bec fin, lui encore habillé. Elle le déshabille, fait coulisser la ceinture pour délivrer les larges vêtements informes, cherchant un chemin dans l'abondance, se dépêtrant des grosses chaussures noires qu'il faut tirer sec, lui laissant sur le crâne son Stetson, désentraver ce corps de Diego, connu jusqu'en Europe, totem fabuleux, qui a deux fois son âge et 10 vies d'avance sur elle. Elle prend le dessus, aucun des deux ne rit, trop troublé par l'urgence. Elle se perche en Amazone, embrasse ses seins d'homme, consciente du carnaval de fesses et de femmes passées avant elle, expertes, vertueuses ou dépravées, qui ont fait les mêmes gestes sans faire les mêmes. Le sexe est toujours une première fois.
Merci Claire Berest, c'est un extrait de Rien n'est noir, donc votre roman qui paraît chez Stock, et on voit comment ce corps qui a été démantibulé, qui a été fracassé, finalement parvient à jouir et à créer. D'ailleurs, je ne résiste pas à citer la belle image, puisqu'on parlait d'images tout à l'heure. Il y a aussi des images poétiques, l'image d'André Breton qui l'appelait un ruban autour d'une bombe, elle-même sublimant aussi son corps, transformant son corps pour en faire le corps d'une déesse. On a parlé des déesses avec vous, Olivier Frébourg aussi. Je vais vous demander, pour terminer, Claire Berest, est-ce que ce livre, on a parlé des couleurs que vous raffinez, comme si les pigments aussi, on a eu la très très belle lettre d'Olivier Frébourg qui s'enchassait dans votre propre texte, Olivier. Là, les couleurs, les pigments s'enchassent aussi dans votre propre texte. Je pensais un peu à voyelle de Rimbaud, évidemment, quand il parlait du noir. Il parlait du noir corsé, velu, des mouches éclatantes. Quand il parlait des i, pourpre, sans cracher, rire, des lèvres belles. C'est-à-dire qu'on voit que les mots et les couleurs, au fond, ça fonctionne bien. L'écriture de ce livre, c'est aussi l'histoire de l'écriture, d'essayer de trouver une nouvelle grammaire, une grammaire picturale, pour finalement, on utilise les mots, mais on utilise une grammaire picturale.
Je pense que quand on écrit un nouveau livre et qu'on en a déjà écrit avant, deux écritures se mêlent. Celle inhérente à ce que l'on est, qu'on va parfois reconnaître quand on aime un écrivain et qu'on le suit de livre en livre, cette musique si particulière et qui sauve aussi, je pense à la musique de Verlaine qui, moi, m'a suivi toute ma vie. On ne peut pas ne pas reconnaître un poème de Verlaine. Mais se mêle à cela une autre musique qui est le langage des personnages avec lesquels on a décidé de passer un moment. Et donc, normalement, il y a une nouveauté, quelque chose qui se produit. J'étais avec Diego et Frida. Ils ont plusieurs langages. Frida, elle mélange des images d'une poésie complètement dingue et cinglée, sublime, avec des jurons, mais qui feraient frémir n'importe quel cow-boy aguerri. Bon,
elle fait même boire de la tequila à son perroquet pour qu'il jure.
Elle adore ça parce que ça fait claquer la langue, parce que tout d'un coup, ça fait pétard. Et elle aime faire claquer les pétards. Donc, il y a cette langue-là. Il y a la langue aussi de deux peintres qui parlent de peinture constamment. Qui ne peignent pas du tout la même chose, mais qui se nourrissent l'un l'autre. Le langage de la couleur, le langage de cette création qu'on cherche au plus loin. Et Frida, elle, qui ne cherche pas à faire carrière, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle parle de sa peinture comme on parle de ses enfants. Enfants qu'elle n'a pas, dont elle souffre. Et ça me touchait immensément ce que vous disiez tout à l'heure à ce sujet-là. Frida qui allait chercher... C'est Frida qui allait chercher dans les couloirs de l'hôpital les morceaux de son fœtus, parce qu'il était à elle et qu'elle voulait le peindre pour qu'il continue à vivre toujours avec elle. Quand on écrit, on prend les langages de ces gens-là, on les fait siens, on les incorpore, on se noie dedans, il y a le nôtre, on mélange tout ça et on essaye de faire quelque chose.
Trouver sa langue, il a fallu inventer une nouvelle langue aussi, Olivier.
Alors, pour cette... si vous me permettez, Christophe, je vais répondre à votre question justement en partant du constat que fait Claire. Je crois que le livre de Claire, Rien n'est noir et où vont les fils, justement, se rencontre sur une chose évidente qui est comment fait-on pour vivre dans le réel, tout en vivant dans l'art, que ce soit la peinture, que ce soit la littérature, donc la création, à quel moment ces deux mondes, car ces deux mondes, qui n'en font qu'un apparemment, mais ces deux mondes s'entrechoquent, s'opposent, se réconcilient, comment la création, justement, nous permet d'affronter parfois le réel, comment parfois nous sommes au pied du mur et dévastés par le réel, que ce soit par les corps, par les chagrins d'amour, pour parler de Frida. Et c'est ce dialogue permanent entre, le soleil et la lune, ou entre la lumière et l'ombre, la vie et la mort, qui font ces forces de vie et qui font, la beauté d'une femme comme Frida. Voilà, donc je crois que c'est un peu cela aussi, le langage et la grammaire picturale. Et puis, il y a quand même une chose, c'est qu'on voit que le Grand Sud, les tropiques qui m'y sont chers, Marcel Duchamp, à un moment, a une grande... Enfin, Frida admire, je crois, énormément Marcel Duchamp. Marcel Duchamp était un Normand. La Normandie, c'est aussi l'Atlantique. La Normandie, c'est aussi les transatlantiques. Et voilà, voyageons.
Et le large, comme disait Françoise Hardy. Un mot sur cette langue, justement. C'est comme ça que vous répondiez à la question, c'est-à-dire entre la lune et le soleil, quoi. Il fallait trouver une langue soit entre la lune et le soleil.
Il faut trouver en permanence ces mots qui sont les mots à la fois de la peinture ou de la littérature et les mots du réel. Et il y a souvent un décalage et en permanence on essaye de réaliser en quelque sorte cet emboîtage.
Bien, merci beaucoup Olivier Frébourg, merci beaucoup Claire Berest.
Merci Christophe.
Je rappelle, il nous reste quand même une chose à faire, c'est écouter votre choix musical. Je rappelle le titre de vos livres, Où vont les fils, Où vont les fils
de la mémoire, les fils de la mémoire et les fils.
Exactement, ouais. Olivier Frébourg, c'est au Mercure de France. Rien n'est noir de Claire Berest, c'est chez Stock. Et Claire, vous avez choisi donc Angela Aguilar, La Llorona, grand standard. Vous pouvez en dire un mot avant qu'on l'écoute quand même.
Oui, immense chanson populaire mexicaine qui veut dire la pleureuse. Ce que j'aime énormément dans cette chanson, c'est qu'on peut la trouver de manière extrêmement enjouée et rythmée, on peut la trouver de la manière la plus triste possible. Les paroles changent à chaque fois, parce qu'au Mexique, comme pour l'art, les paroles des chansons appartiennent à tout le monde, et tout le monde peut en permanence rajouter un couplet. Une chose sur cette chanson, à un moment donné, elle dit... Qui n'a pas connu l'amour ne sait pas ce qu'est le martyr. Et je pense que c'était un fil rouge pour moi pour écrire ce roman d'amour fou.
Et ça va aussi à Olivier Frébourg, à Où vont les fils, exactement. Hein, c'est aussi l'histoire d'un martyr et d'une résurrection.
Et d'une résurrection.
Voilà,
et d'une
c'est important.
J'aime beaucoup le choix musical de Claire aussi, qui commence avec.
Ouais.
Parce que c'est une chanson à la fois d'une terrible mélancolie et en même temps d'une force et d'une puissance intérieure absolument magnifique, vraiment bouleversante.
On l'écoute, je vous dis juste, hein, comme chaque semaine, que le temps des écrivains, c'est Anne-Catherine Lochard, Jean-Christophe Francis à la réalisation, Olivier Dupré à la technique. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et tweeter, podcaster à l'infini sur franceculture.fr pour réécouter cette émission avec Olivier Frébourg et Claire Berest.
Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso hippie, creí.
Porque